10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Rendez-vous, votre émission qui lance la semaine politique. Ce n'est pas la première fois qu'il promet d'être la surprise du scrutin. Mais si cette fois, pour les européennes, c'était la bonne. Les gilets jaunes, c'est nous, veut-il croire. Il y voit la cristallisation de tout ce qu'il défend depuis des années. Paroles du peuple confisquées, taxes excessives. Il y ajoute immigration et Europe. Alors il n'est pas le seul dans le champ politique à espérer profiter de la dynamique de ce mouvement social anti-élite. Et pour l'instant, son ex-allié de la présidentielle, Marine Le Pen, semble en être la première bénéficiaire. Mais face au dégoût que les Français disent aujourd'hui éprouver pour la politique et ses représentants, le jeu peut être dangereux. Défense du mouvement ou récupération, la ligne de crête est difficile à tenir. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
Bonjour Hélène Jouan.
Merci d'avoir accepté l'invitation du Grand Rendez-vous. Vous êtes président de Debout la France, vous êtes député de l'Essonne et vous serez tête de liste pour les prochaines européennes, pour votre, au nom de votre parti, que vous souhaitez d'ailleurs élargir. Avec vous, nous allons revenir sur ce mouvement des Gilets jaunes qui s'est remobilisé hier. Et puis nous allons évidemment parler des élections européennes puisque vous mettez beaucoup d'espoir dans ce scrutin. Pour vous interroger, Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Bonjour Cécile. Et Damien Fleurot, chef du service politique de CNews. Damien Fleurot qui vous pose la première question.
Bonjour Damien Fleurot. Nicolas Dupont-Aignan. On l'a dit, une mobilisation des Gilets jaunes en hausse hier, un peu partout en France. 84 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Les chiffres sont souvent contestés. Ils étaient 50 000, hein, selon le ministère, le week-end dernier. Mais peut-être un tournant dans cette mobilisation. On a vu une plus grande organisation dans les cortèges, des échauffourées aussi sans doute moins violentes que les samedis précédents. Comment est-ce que vous expliquez cette baisse de la tension, une baisse relative toutefois?
Mais je l'explique tout simplement parce que les gilets jaunes ont toujours été pacifiques et que certains casseurs...
On n'a pas toujours vu ça dans les...
Dans l'ensemble, de très grande majorité.
Dans les manifestations précédentes.
Et c'est un mouvement populaire, simple, de Françaises et de Français qui veulent vivre de leur travail et qui veulent être respectés comme citoyens de la République française.
La présence des forces de l'ordre en nombre, 80 000 répartis
Écoutez,
sur tout le territoire.
Moi, je remarque que les gilets jaunes ont été très pacifiques et qu'ils n'ont pas répondu aux provocations des uns et des autres. Et je remarque surtout qu'il
Vous
y a une force très puissante, oui, bien sûr, une force très puissante dans le pays pour changer notre pays. Vous savez, hier, j'étais dans ma circonscription à un banquet des anciens. Et j'ai une dame qui m'a parlé et qui m'a dit « Monsieur le député, j'avais 903 euros de retraite par mois, j'ai travaillé 46 ans, durement, et depuis Monsieur Macron, ma retraite a baissé, je suis à 878,5. Et quand j'entends Monsieur Macron nous dire à la télévision qu'on ne fait pas d'efforts, moi qui ai travaillé 46 ans, que je vois les gaspillages qu'il y a partout.
Sa retraite a baissé, pardonnez-moi, elle est en dessous des 1200 euros qui était la première...
Écoutez, je lui poserai la question, j'étais surpris moi aussi, mais elle m'a dit...
Vous ne voulez pas demander pourquoi sa retraite avait baissé.
C'était un peu compliqué, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais simplement, c'est pour vous dire que l'exaspération de nos concitoyens, les retraités qui ont travaillé dur et qui voient que chaque année, on leur vole leur retraite, la désindexation des pensions de retraite. Emmanuel Macron n'est pas revenu dessus. Et ce gouvernement est le premier de la République, après François Hollande, que ça devait être provisoire, à réduire le pouvoir d'achat de millions de retraités qui ont travaillé dur chaque année.
Il est revenu le 10 décembre dernier sur un certain nombre de mesures qui devaient toucher justement les retraités.
C'était
il a hossé
et
le
Et les retraités l'ont compris. Je pourrais prendre l'exemple du livret A, l'épargne populaire, ceux qui n'ont rien, qui ont un petit livret A, qui est spolié tous les ans, puisque vous savez que la rémunération du livret A ne couvre même pas l'inflation.
Mais ça, ce n'est pas Emmanuel Macron.
Bah non, mais enfin, c'est Emmanuel Macron qui est président depuis 18 mois.
Le calcul,
on peut le remettre en cause. C'est quand même incroyable que l'épargne populaire soit spoliée. Les mères de famille, les pères de famille qui élèvent leurs enfants, qui ont du mal à élever leurs enfants, qui voient la prestation familiale réduite chaque année. Vous savez, ce n'est pas un mouvement de... Ce qui est insupportable pour les Français, j'en suis convaincu, c'est cette arrogance où on a l'impression qu'Emmanuel Macron, là, la fameuse galette, considérait son peuple comme des enfants gâtés. Mais les Français vivent durement. ont leur pouvoir d'achat réduit et demandent de la justice.
Nicolas Hulot, est-ce que ça justifie des agressions contre des journalistes et plusieurs ont été brutalisés
bien
à
sûr
Rouen,
que non.
À Pau, à Toulouse.
Bien sûr que non, mais ce n'est pas quatre individus dont on ne sait pas qui c'est d'ailleurs, ou quatre anarchistes ou quelques casseurs d'extrême gauche qui doivent être montés en épingle pour déconsidérer un mouvement populaire et ne pas y répondre.
Pour vous, ça n'a rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes,
mais
ces agressions.
Quand il y a une ébullition populaire, quand on a un gouvernement qui met de l'huile sur le feu, quand on a un président de la République qui mène une politique d'une injustice incroyable,
donc
jamais vue.
Donc le responsable,
vue.
C'est le gouvernement,
totalement.
C'est pas les Gilets jaunes. Vous
totalement.
Épargnez complètement
totalement.
Les Gilets jaunes de
totalement.
Responsabilité.
Je les connais. Et je dis simplement qu'un peuple qui est humilié, martyrisé, brutalisé, eh bien, à un moment, ça finit mal. Et j'aspire à la responsabilité. J'ai toujours demandé que les manifestations soient déclarées. J'ai toujours soutenu les Gilets jaunes modérés, responsables. Et j'ai toujours demandé que le président de la République fasse preuve, un, d'humanité, réconcilie les Français, car c'est son rôle, et change de politique sur les aspects les plus révoltants de ce qui est mené. Mais changer de politique, soyons précis, ce n'est pas faire semblant. C'est vraiment se poser la question de ce qui ne va pas depuis le début du quinquennat.
Donc pardonnez-moi, les violences ne sont jamais les Gilets jaunes. La semaine dernière, quand il y a une intrusion au ministère
qu'il peut y avoir
de Benjamin Griveaux...
Mais bien sûr, je n'ai jamais dit que tous les Gilets jaunes étaient parfaits. Je dis simplement...
Mais vous ne condamnez pas.
Je dis simplement, j'ai condamné les violences, bien sûr. Mais j'ai dit qu'un président de la République est chargé du devenir du pays. J'ai retrouvé, tiens, pour élever un peu le débat, un texte du général de Gaulle en 58, extraordinaire. Je vous invite à le lire. Vous savez qu'il a mis en place un plan de rigueur après la 4e République pour redresser le pays. Un plan de rigueur très dur. Mais en même temps, il disait quoi ? Il disait « Je vais demander aux plus riches un effort financier pour la nation. Et je vais augmenter le salaire minimum des Français. Et je vais augmenter la pension de retraite des plus modestes. Et tout le monde est sur le bateau. Et on va y arriver. » Vous voyez la différence ? Les Français sont prêts à l'effort collectif.
Mais les Français c'est pas ce que dit Emmanuel Macron à la fameuse galette des rois que vous évoquiez
non.
il y a un instant.
Non,
enfin,
Emmanuel
trop
Macron.
Les Français n'ont pas le sens de l'effort.
Mais c'est honteux cette parole. Quand les Français souffrent comme jamais de sa politique. Emmanuel Macron a donné 5 milliards aux plus riches de France, a réduit le revenu
dans les 5
des
milliards,
retraités.
L'ISF.
L'ISF et la nouvelle fiscalité du capital. C'est absolument ahurissant ce qui s'est passé. Aucun pays n'a fait ça. Aucun chef d'État n'a été aussi méprisant. Et puis, de l'autre côté, rien pour véritablement changer la pression fiscale, c'est-à-dire alléger les artisans, alléger ceux qui travaillent, rien sur les fameux GAFA qui va recevoir à Versailles. Non, mais vous avez vu où on arrive.
Mais vous dites,
c'est-à-dire
Nicolas
que lundi prochain, Emmanuel Macron réunit les plus grandes entreprises mondiales qui ne payent pas d'impôts en France et en Europe, leur déroule le tapis rouge à Versailles.
Il leur demandera d'investir dans notre pays.
L'attractivité de la France, Nicolas Dupont.
L'attractivité de la France,
Nicolas Dupont-Aignan.
Vous croyez qu'elle est réussie avec le spectacle que nous montrons au monde depuis 8 semaines d'un président irresponsable, qui souffle sur les braises, d'un ministre de l'Intérieur incompétent.
Mais vous dites alors un gouvernement irresponsable,
rue,
vous dites un gouvernement
qui n'est
plus...
totalement responsable de sa situation.
Vous dites oui. Le gouvernement est légal, mais il n'est plus légitime. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que cela veut dire que c'est finalement la rue qui gouverne, les sondages peut-être d'opinion ?
Non, pas du tout. Le gouvernement est légal. Il a été élu.
Pour 5 ans ?
Par défaut d'ailleurs, et le grand malentendu vient... qu'il croit qu'il a été élu pour son programme. J'entends les députés de la majorité nous dire « on a été élu ». D'ailleurs, il n'avait jamais promis la désindexation des pensions de retraite. Jamais. Mais qu'importe. En fait, il a été élu, il est légal. Simplement, la 5e République du général de Gaulle avait prévu des dispositifs pour le cas de figure qui arrive souvent en démocratie et qu'il ne faut pas dramatiser et qui existe dans d'autres pays. C'est-à-dire où un gouvernement, ça arrive en Angleterre, où parfois il y a des élections anticipées, ça arrive en Allemagne. Il y a eu beaucoup de gouvernements démocratiques qui, à un moment, ont senti que la contestation était telle qu'il fallait un nouvel arbitre.
Donc provoquer des élections anticipées, des élections législatives.
Je vais y venir. Cet arbitre, c'est le peuple. Ce que j'ai voulu dire, c'est quand
vous avez... C'est la rue,
vous
la
avez,
légitimité.
Non, mais quand vous avez... C'est pas la rue. Quand vous avez une protestation aussi forte, un désaveu aussi fort, à la fois dans les sondages, à la fois dans la rue... un comportement aussi détesté par un peuple. François Bayrou, qui n'est pas de mon bord, l'a très bien dit. Vous ne pouvez pas éternellement gouverner contre un peuple. Vous ne pouvez pas mettre un gendarme derrière chaque Français. Il y a un moment, la seule solution pour Emmanuel Macron, et je lui dis amicalement, la seule solution qu'avait prévue le général de Gaulle, qu'il a fait d'ailleurs en 68, c'est je remets ma légitimité, qui est quelque chose de toujours temporaire, devant le peuple, et c'est le peuple qui arbitre. Alors comment on la remet ?
Mais pardonnez-moi, 84 000 personnes dans la rue, est-ce que c'est ça qui doit pousser
c'est à lui
Emmanuel
d'apprécier.
Macron ?
Moi j'estime que quand on a 25% de popularité...
Vous savez, j'ai fait le calcul, par exemple, dans votre commune de hier, vous n'êtes plus maire de hier, dans votre commune de hier, sur 29 000 habitants, ça voudrait dire que 36 personnes sont contre
la façon dont
la majorité municipale se conduit.
Mais vous savez bien que c'est pas ça.
Ça suffit pour remettre en cause.
Mais vous savez bien que ça marche pas comme ça. D'abord, il n'y a pas 80 000 personnes, il y en a beaucoup plus. C'est le 9e week-end, les Français sont à bout. Il faut déployer des forces de l'ordre qui n'en peuvent plus, on en parlera. Bref, il a le choix des armes. Il peut faire un référendum sur un programme concret. La réforme des retraites qui la soumettent à référendum. Moi, je ne lui dénie pas sa légalité. Il est président. Je lui dis, allez devant les urnes, le référendum, la dissolution. À un moment, vous devez renouer avec le peuple par le suffrage. C'est la seule solution pour désamorcer la crise. Tous les présidents, tous les gouvernements du monde entier de démocratie, quand il y a une crise, il faut la trancher. Et ce n'est pas en la laissant pourrir, en insultant son peuple, qu'il y arrivera.
Alors, avant les urnes, il y a la question du débat national qui va s'ouvrir cette semaine. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, est l'invité du Grand Rendez-vous. On se retrouve dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, est l'invité du Grand Rendez-vous. Le grand débat national est lancé cette semaine. Une question de Cécile Cornudet.
Oui, Nicolas Dupont-Aignan, vous dites qu'il faut une sortie politique au mouvement. Or, le débat, Hélène vient de dire, commence mardi. Est-ce que ce n'est pas un bon début ? Est-ce qu'il ne faut pas que vous y participiez, que vous jouiez le jeu ? Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs ?
Si ce n'était pas triste et dramatique pour le pays, on hurlerait de rire. En démocratie... On a besoin d'un organisateur de débat. On a élu le président de la République pour organiser un débat. Excusez-moi, mais la démocratie, c'est le débat permanent.
Les Gilets jaunes demandent une écoute, et là, il y a un moment d'écoute.
Ils n'ont pas besoin de paternalisme, Madame Cornudet. Les Français n'ont pas besoin, ne sont pas un peuple infantile. Et ils n'ont pas besoin d'être traités en paternalisme. Je ne dis pas non à tout. J'ai déposé une proposition de loi avec le sénateur Masson et la sénatrice Kaufmann. Trois jours après le début des Gilets jaunes. 47 articles, 40 pages, des solutions concrètes. Moi, je suis dans la solution. Vous savez que je suis un homme politique.
Vous parlez d'une solution politique. Est-ce que, par exemple, une grande coalition, vous pourriez participer pour sortir de la crise.
Je reviens à la base. D'abord, le débat. On n'a pas besoin d'avoir les débats organisés par les préfets, par les maires. On n'a pas besoin que M. Griveaux nous dise qu'on n'a pas le droit de parler d'immigration. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui croit qu'on est revenu sous l'ancien régime. D'ailleurs, les cahiers de doléances, je vous signale que c'était sous la monarchie parce qu'on n'était pas encore en République et qu'il y avait des moments autorisés et des sujets autorisés. Donc, le grand débat, c'est de la foutaise intégrale. Il n'y a pas un Français qui croit à cette comédie.
S'il y a beaucoup de
moyen...
Français qui y vont, ça pourrait faire un... Une parole forte qui pourra réorienter la politique du gouvernement.
Mais vous plaisantez. Le 31 décembre, le président s'est adressé aux Français. Moi, j'écoute. Je suis très respectueux. J'écoute. Et il a dit « foule haineuse », c'est-à-dire en gros, vous êtes des dingues. Deuxièmement, je ne changerai pas de politique. Troisièmement, on va faire la réforme des retraites. Quatrièmement, il a envoyé M. Édouard Philippe, et on va parler de ça tout à l'heure, en Allemagne, dire « Rassurez-vous, il y a du baratin, là, le grand débat, le grand blabla, c'est le grand blabla. Mais nous, on continue la même politique, c'est la même feuille de route, rien ne va changer, amis allemands, on reste bien obéissants, rien ne va changer, et tout. » C'est de la duplicité, c'est du blabla, c'est n'importe quoi.
Mais c'est ce que réclame, pardonnez-moi Nicolas Dupont-Aignan, c'est aussi ce que réclame une partie des Gilets jaunes.
Mais non.
Cécile le disait, d'être entendu, d'être écouté, de pouvoir porter un certain nombre de propositions.
Mais on est d'accord, mais on n'a pas attendu l'ouverture mardi d'un débat sur ordre avec certains sujets interdits et certains sujets autorisés pour que les Gilets jaunes proposent. Moi j'attends d'un président de la République.
Il ne faut pas de cadre à ce débat, pas de limite.
Le débat il est permanent. Enfin écoutez... C'est extravagant.
Donc vous êtes pour la démocratie représentative.
Alors vous êtes journaliste. Journaliste d'une démocratie. Et vous allez m'expliquer qu'à des sujets autorisés, interdits,
Nicolas,
des horaires d'ouverture.
Comprendre et savoir vers quelle finalité ce débat peut aboutir,
mais
c'est
à
intéressant.
Quoi servent
les députés ? C'est aussi l'objectif de la lettre du président de la République.
Mais attendez, excusez-moi. À quoi servent les députés depuis 18 mois en marche ? Ils n'ont pas écouté, là, depuis un certain temps ? À quoi sert un président de la République ? À prendre des décisions. Alors,
c'est une façon d'organiser
un débat
directe.
En démocratie.
Vous êtes contre la démocratie directe ?
Au contraire, j'y suis favorable. Et bien, la démocratie directe, et je suis... pas l'inventeur, mais le défenseur depuis 2012 du référendum d'initiative citoyenne. S'il y en a un qui l'a proposé, puis reconnaissez au moins que j'ai de la constance dans mes idées. Et si on veut un débat plus formel, il faut, comme au moment du référendum de 2005 sur l'Europe, il y a une question, il y a un texte. Ça, c'est le rôle de l'exécutif. Il propose aux Français un vote sur un sujet. Là, il y aura un débat plus organisé sur un sujet. Alors, si le président de la République veut un débat plus formel, parce qu'en démocratie, il y a le débat, eh bien, en tout cas, moi, à sa place, je poserai trois questions par référendum. Première question, sur les institutions, mettre en place le fameux référendum d'initiative citoyenne. Je propose, parce que moi, je veux apporter des solutions. À Debout la France, on est là pour apporter des solutions. 500 000 signatures, comme en Italie, un référendum d'initiative citoyenne. Ça débloquera le jeu politique français.
Mais il ne semble pas que le gouvernement aujourd'hui soit fermé à cette question.
Oui, enfin, il nous explique que... On va voir.
En tout cas,
500
000
signatures sans vote des élus.
Sans vote de parlement. Mais bien sûr, sans verrou des parlements. Vous croyez que les parlementaires vont accepter que le peuple décide ? Jamais. Deuxième point. Un projet fiscal. Moi, j'ai fait des propositions fiscales. J'y reviendrai, si vous voulez bien, dans un instant. Très précises pour lutter contre les gaspillages, les vrais gaspillages, et pour redistribuer l'argent que j'économise vers les Français qui travaillent. Troisièmement, sur l'immigration, le traité de Marrakech, qu'il a signé en douce.
Pas en douce, il l'a signé comme
vous
d'autres pays l'ont signé.
Hélène Jouin, non mais arrêtez.
Il n'y a pas eu de débat
Hélène
au Parlement, Jouin, c'est ça que vous
je
dites.
Je vous respecte
il
n'y a trop
pas,
pour
il n'y a
que
pas
vous
eu de
fassiez
débat.
L'avocat.
Je
mais
ne
vous
fais
plaisantez.
Pas l'avocat, je vous dis qu'il n'y a pas eu de débat au Parlement.
Hélène
Jouin,
le traité de Marrakech, qui est le traité le plus important signé sur l'immigration massive, qui a fait chuter un gouvernement en Belgique, qui a suscité un débat au Bundestag, qui
donc
est
vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de
importante.
Débat au Parlement sur le pacte de Marrakech.
Mais comment voulez-vous que les Français puissent croire Emmanuel Macron sur le blabla du grand blabla du débat, le grand blabla, alors même qu'il a engagé la France sur le soutien à une immigration massive
mais
sous le contrôle
la question,
de l'ONU
ce n'est pas ce que dit le texte,
par le traité
pas
de Marrakech.
Du,
ah oui, on va pas en parler.
Traité...
Bah, parlons-en,
si,
Madame Jouin.
On peut en parler.
Ah
mais...
bah oui, parce que les Français ont peut-être le droit de ne pas être manipulés éternellement.
Vous savez que ce n'est pas un texte impératif
si,
pour les États.
Mais si, vous savez très bien, et là, on a un débat. Tiens, est-ce qu'on a le droit d'avoir un débat sur l'immigration en France ? Non. Alors moi, je vais vous dire... Il y a un débat sur l'immigration parce que
ça
le traité de Marrakech.
Des sous-sujets que, qui
et sont
des
sous-sujets émergés.
Madame Cornudet,
il y a des grands thèmes et c'est dedans.
Vous m'effrayez. J'ai beaucoup de respect pour la presse, mais parfois vous m'effrayez parce que j'ai l'impression que vous vous êtes habitué à être en liberté surveillée. Je veux dire par là, n'y voyez pas de parce que je ne suis pas comme certains de mes collègues,
ben
j'ai pas de mépris pour les journalistes, parce que sans démocratie, sans journaliste, il n'y a pas de démocratie.
Oui, mais vous venez de faire le contraire.
Oui, parce que je suis stupéfait que vous osiez dire. C'est un sous-débat. Alors ça veut dire...
Non mais ça veut dire que
ça
vous
dire.
Dites que ce n'est pas dans le débat. C'est dans
ça
le débat.
Ça veut dire qu'il y a deux décisions majeures du pouvoir. La signature du CETA, d'un traité de libre-échange économique qui va ruiner nos agriculteurs avec le Canada, qui est mis en œuvre depuis plusieurs mois, sans qu'il y ait même eu un vote du Parlement français, sans qu'il y ait eu le moindre débat.
Donc on revient
il y a
aussi...
Eu ensuite, il y a eu ensuite la signature du traité de Marrakech, qui ouvre les voies de l'immigration massive sur le continent européen, qui est un sujet majeur. Qui a été fait en catimini sans que même la presse n'en parle.
Eh bien, portez-le, si la presse en a parlé, et
très peu.
Portez-le à ce moment-là dans le débat national.
Mais j'ai pas besoin de l'autorisation de M. Macron.
C'est pas une autorisation, c'est une opportunité
mais
de
une
porter
opportunité,
ce débat.
Mais enfin, vous êtes complètement intoxiqué vous-même.
Non, je me sens assez saine, tout va bien.
Eh bien, pas moi. Je suis inquiet pour vous. Avec tout le respect que je vous dois. Je suis désolé, je demande un référendum. Et là, ce sera un vrai débat, parce que cela voudra dire...
Mais sur quelle question, Nicolas
Dupont-Aignan ? Question, est-ce qu'on approuve ou pas le traité de Marrakech ? Et deuxième
voilà
référendum...
Voilà une proposition que vous faites.
Deuxième référendum, très clair, sur un plan fiscal. Moi, j'ai le mien, mais je ne peux pas le soumettre à référendum, j'en suis désolé. Et je pense qu'il intéresserait les Français, parce que quand je propose, concrètement, de supprimer les cartes vitales données aux étrangers sans vérification de l'identité réelle, 18 millions de cartes vitales à des étrangers, des gens nés à l'étranger. Et un magistrat, M. Prats et Mme Goulet, qui n'est pas de mon bord politique, qui est centriste au Sénat, sénatrice, Mme Goulet, qui demande une enquête sur les 2 millions de fausses cartes vitales, 14 milliards d'euros de gaspillés. Le gouvernement refuse l'enquête. Quand je propose qu'on réduise la dotation de l'Union européenne de 9 milliards pour les rendre aux retraités français. Mais quand je propose qu'on réduise le train de vie de l'État.
Donc vous faites quand des propositions. Nicolas Dupont-Aignan.
Oui, mais j'ai des propositions et je les publierai, je les ai faites avec la proposition de loi. Quand je vois que la salle des fêtes de l'Élysée est refaite pour 200 000 euros, que 500 000 euros de vaisselle est commandée à l'Élysée, quand je vois qu'il y a la piscine à Brégançon, quand je vois...
On voit que dans les revendications aujourd'hui des Gilets jaunes, il y a aussi le train de vie des parlementaires. Est-ce que vous, par exemple...
Mais j'ai proposé 100 fois. Je suis même le seul
à quel niveau
avoir proposé
parce que les Gilets jaunes,
dans les
doléances, disent... Les parlementaires doivent revenir au salaire médian, c'est-à-dire 1 700 euros. Vous signez cette proposition ?
J'ai signé la baisse et le contrôle de toutes les dépenses des parlementaires. Donc, je l'ai fait.
Baisse de votre traitement, de votre salaire ?
Eh bien, même de mon traitement, j'avais proposé une réduction de 10% à l'époque.
Ah, on n'est pas aux 1 700
euros. On n'est pas aux 1 700 euros et on en discutera. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, mettons un débat sur la table par référendum. Le président de la République a le choix des armes. C'est à lui de proposer aux Français, à mon avis, les trois enjeux. La démocratie, la fiscalité, l'immigration.
Il envisage un référendum. Mais qu'il le fasse vite,
parce qu'il n'y a pas besoin de 150 débats. Ça fait 18 mois que les Français expriment leur colère. Ça fait 18 mois que tout parlementaire qui se respecte
non,
reçoit des lettres.
Ça fait pas 18 mois que les Français expriment leur colère. Il y a un
mouvement
social. Il n'y a
pas eu de manifestation depuis longtemps.
Ah mais alors si à chaque manifestation de chaque pouvoir, le pouvoir devenait illégitime, ça devient compliqué pour un gaulliste comme vous de défendre cette façon de gouverner,
Madame
Nicolas Dupont-Aignan.
J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a l'occasion manifeste de réconcilier le peuple et les élus par le suffrage. Quand il y a eu la crise algérienne, qui était une crise douloureuse, terrible, avec un bord de la guerre civile. Qu'est-ce qu'a fait le général de Gaulle ? Il a demandé au peuple d'arbitrer. Si Emmanuel Macron et si sa majorité sont 6 sur 2 sur leur politique, parce que reconnaissez qu'ils sont sur 2, très bien. Si, comme vous le dites, il y a très peu de manifestants.
Je n'ai pas dit ça.
Si, vous avez dit
non,
ça fait
dit,
26
ça
personnes
fait pas
ailleurs.
Sont dans la rue.
Bon, s'il y a très peu de manifestants,
000 personnes
eh bien alors, il n'y a aucun risque à ratifier sa politique par un référendum. Et on ne peut pas d'un côté dire « je veux le débat », de l'autre faire passer en douce des orientations fondamentales pour la société française sur le plan migratoire, sur le plan du libre-échange, sur le plan européen. Bref, il y a une contradiction chez Emmanuel Macron. S'il veut le débat, il annonce un référendum et il y aura un débat sur une question claire et les Français trancheront. Mais j'ai mon petit doigt qui me dit qu'il a peur du peuple.
Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et tête de liste pour les prochaines européennes et l'invité du Grand Rendez-vous. On parle des élections européennes dans un instant.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et l'invité du Grand Rendez-vous. Il sera aussi tête de liste pour les prochaines élections européennes. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, lance aujourd'hui sa campagne pour les européennes. Elle a clairement une longueur d'avance, en tout cas dans les sondages pour l'instant, sur vous. Elle semble être aussi la grande bénéficiaire de ce mouvement des Gilets jaunes pour l'instant. Et puis elle a réussi un certain nombre de débauchages, dont l'ancien ministre Thierry Mariani, sur lequel vous comptiez un petit peu. Comment comptez-vous, vous, exister dans cette bataille, à ses côtés, mais pas avec elle ?
Pas à ses côtés spécialement. C'est un scrutin à un tour, l'élection européenne. S'il y a une personnalité qui a fait l'union et qui a eu le courage entre nous de choisir au second tour de la présidentielle, sans me lancer des fleurs, parce que j'ai reçu beaucoup d'épines, ce fut moi. C'est-à-dire que je ne peux pas être suspect de division du camp national face à Emmanuel Macron. Moi, j'ai pris mes responsabilités au second tour de l'élection présidentielle. Personne ne peut m'en vouloir de ça. Mais en revanche...
Et pourquoi ne pas
attendez,
avoir poursuivi avec
exactement,
elle
exactement, ben je vais vous l'expliquer. Mais en revanche... Souvenez-vous, à Villepinte, lors de son meeting du second tour, j'avais clairement dit que c'était un choix de second tour, que c'était une alliance, une coalition, mais que je gardais avec mes amis de Debout la France, gaullistes, humanistes, ma totale indépendance. Et que la force, justement, de notre alliance, c'est pas qu'on était identiques, c'est qu'on se respectait mutuellement Et on avait même, j'avais même négocié un programme commun où elle avait fait des gestes importants, où elle avait abandonné la sortie de l'euro rapide, une taxe à l'importation excessive, et puis d'autres points sur l'accueil des enfants de clandestins à l'école de la République que je trouvais... attendez, je finis mon explication parce que c'est important. J'ai tiré aussi les leçons du second tour. Et au second tour de l'élection, j'ai compris une chose, c'est que malheureusement, le programme tel qu'elle l'avait exprimé à ce fameux débat du second tour n'était pas clair dans sa tête. Je n'ai rien dit après le débat du second tour, parce que je ne suis pas un homme qui critique ses partenaires. Mais pour les européennes, j'ai dit à Marine Le Pen, je lui ai même écrit une lettre à laquelle elle ne m'a jamais répondu, je lui ai dit, il ne faut jamais mettre dans la vie, tu vois, la charrue avant les bœufs, il faut d'abord être bien au clair sur le programme.
Mais en sept...
Attendez, je finis. Sur le programme. Et au mois de septembre, je lui ai dit, je te propose un programme, une charte que nous avons adoptée à notre congrès, à mon lancement de campagne le 23 septembre, solide sur l'Europe. Cette charte, avant de penser à une liste commune éventuelle, puisqu'elle m'en avait fait la proposition, je veux d'abord savoir sur quelle base on va. Parce qu'il ne faut pas reproduire l'échec de la présidentielle. Les Français n'ont pas voulu voter pour nous, pour toi, parce qu'il y avait des ambiguïtés sur le programme et qu'ils ont été inquiets. Elle ne m'a pas répondu et elle veut procéder comme à la présidentielle, c'est-à-dire foncer avant d'avoir le programme. Moi, je ne marche pas dans ces conditions et j'ai dit, à ce moment-là, puisqu'elle ne le veut pas, je fais avec ceux qui
donc
m'accompagnent
divisions...
sur des bases solides, un programme solide pour l'Europe, car il y a une crise européenne
donc,
et que les Français méritent...
Les divisions absurdes de la droite que vous dénonciez en septembre 2017 après la présidentielle, elles sont toujours aujourd'hui valables. Il n'y a pas que Marine Le Pen aussi.
Je le regrette,
les alliances
oui,
que vous pourriez
j'ai tout
faire
essayé
avec la droite.
Je vais vous dire franchement, moi je suis franc et c'est peut-être ma différence en politique, c'est que je dis ce que je pense. Je vais être franc. Je suis convaincu qu'on ne gagnera face à Emmanuel Macron en 2022 que par l'union, c'est-à-dire une vaste coalition, allant pas seulement avec le Front National, le Rassemblement National maintenant, Debout la France, mais aussi une partie des Républicains. Parce qu'en fait...
Mais c'est ce qu'elle
attendez,
réussit, là,
notre
moment.
Électorat... Non, je ne crois pas. Notre électorat attend une coalition et un programme commun. Mais cette coalition, et je le dis à nos partenaires, et inlassablement, je dirais la même chose, parce que je veux qu'on gagne, et parce que j'entends mes électeurs, les électeurs de droite, ils veulent que ce soit sur un programme crédible. Ils ne veulent pas qu'on reproduise le débat du second tour.
Mais la situation politique, elle a changé. On n'est plus au lendemain de la présidentielle.
Non, mais attendez.
Il y a une crise majeure, vous en parlez.
Il y a une crise majeure, et bien justement, cette crise majeure exige de notre part... Non, cette crise majeure exige le sérieux. Les Gilets jaunes n'attendent pas de nous de la démagogie. Ils attendent des propositions...
Plus 100 euros sur les petites retraites.
Et ils attendent des propositions... Attendez, je reviens à la question, parce que vous êtes plus intelligent que moi, et moi je suis, vous savez, je prends les questions les unes après les autres.
Allez-y.
Sur l'affaire... dès l'élection européenne. Moi, je rêve d'une grande entente, d'une grande coalition. Je l'ai fait, je suis la seule personnalité politique avec Bruno Nortre, président du Centre National Indépendant et Paysan, qui ont eu le courage, au second tour, de faire l'union pour éviter Macron. Donc, j'ai aucune leçon d'union à recevoir. En revanche, l'échec du second tour de la présidentielle, la méfiance des Français après le débat du second tour, ont prouvé qu'on ne gagnera demain que si nous sommes béton sur le programme.
Et qu'est-ce qui n'est pas crédible dans le programme de Marine Le Pen ?
Je n'ai pas critiqué Marine Le Pen et vous ne m'entraînerez pas là-dessus.
C'est pour ça que vous ne partez pas avec elle.
Moi, je propose un programme que je juge crédible. Bernard Monod, Sylvie Godine, députés européens du Front National nous ont rejoints. Des gens des Républicains nous rejoignent et il y en aura d'autres.
Qui ?
Parce qu'ils préfèrent, vous verrez le moment venu. Et parce qu'ils préfèrent...
Elle dévoile aujourd'hui, Marine Le Pen, un certain nombre
moi, je prends mon temps.
De ses soutiens.
Moi, vous savez, il y a le lièvre, il y a le tortue. Dans la fable, la tortue est plus lente, peut-être moins sexy, mais elle avance pas à pas.
Des élus ou des anciens élus
ce seront des personnalités de la société civile, des personnalités politiques qui veulent du sérieux. Vous savez, c'est très simple, ce qui se passe dans le pays. Il y a ceux qui veulent continuer avec Macron ou les Républicains, c'est-à-dire la même salade... qui ont voté tous les traités européens qui nous conduisent à cette politique. Parce qu'on va parler Europe.
C'est quoi,
on va parler
les
Europe s'il y a la crise.
Ou les progressistes.
Ce sont les mondialistes, c'est-à-dire des gens qui ont voté des traités européens, qui n'ont rien à voir avec la belle Europe que je souhaite, qui appauvrissent le peuple français, renforcent l'immigration, ce qui fait que rien ne peut changer tant qu'on continue avec ces traités. De l'autre côté, il y a ceux, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et moi-même, qui voulons...
Attendez, vous mettez Jean-Luc Mélenchon dans le même camp que vous sur l'Europe.
Non, attendez.
Sur l'Europe.
Attendez. Qui refuse cette logique européenne qui tue nos peuples, qui tue le peuple italien, le peuple grec, le peuple allemand, le peuple, tous les peuples. Après, une fois que vous avez ces trois personnalités, c'est aux Français de choisir celui, la liste, qui leur paraît la plus sérieuse, la plus crédible, avec les personnalités les plus expérimentées, pour, à Bruxelles ou à Strasbourg, changer l'Europe. Et il y a un panel. Il y aura le choix de M. Mélenchon, ce n'est pas le mien. Il y aura le choix de Mme Le Pen. J'ai partagé un combat contre Emmanuel Macron avec elle et je ne renie rien et je la respecte. Et puis, il y a le choix que je propose avec mes amis. Et j'offre le choix aux Français. Voilà. C'est un scrutin à un tour, à la proportionnelle.
Vous oubliez quelqu'un, c'est peut-être les gilets jaunes. Vous vous posez en gilets jaunes depuis le début de la crise, or ils seront peut-être vos principaux concurrents aux européennes.
Mais moi, je n'ai pas peur de la concurrence.
C'est une question de vouloir réunir largement pour sortir en tête d'un scrutin.
Mais en tête d'un scrutin, ça veut dire quoi? C'est un scrutin à un tour. Chaque voix est égale. Vous votez pour la liste X ou la liste Y, pour une fois, c'est un scrutin totalement proportionnel. Donc il n'y a pas de vote utile, c'est d'aller à l'essentiel. Et un tour, il faut envoyer à Strasbourg, au moment où il y a une crise européenne majeure. Et moi, je ne veux pas la destruction de l'Europe. Je veux la reconstruction de l'Europe sur des bases solides. Eh bien, il faut envoyer à Strasbourg des personnalités expérimentées qui pourront négocier avec les représentants italiens, polonais, hongrois, pour changer l'Europe et faire que nos agriculteurs, nos ouvriers, nos artisans, nos commerçants, les Français vivent mieux. Et à ce titre, depuis des mois, je travaille, notamment à une grande coalition de 22 pays qui viendront à Paris le 28 février et qui nous ont choisi debout la France. C'est curieux, ils ont choisi un parti.
Y compris la Hongrie, politique, par exemple.
Des partis différents, de l'ECR, de ce qu'on appelle... le groupe ECR au Parlement européen, plus des nouveaux partis, notamment Thierry Baudet, il a un nom français, mais qui est en Hollande, qui est un jeune, qui a plus de 12% des voix dans les sondages, plus ceux de l'ancien parti de M. Farage, où siègent Bernard Monod et Sylvie Godin. Bref, je serais peut-être le premier Français qui réunit à Paris autant de personnalités. Pourquoi ces gens viennent là, alors que c'est moins peut-être flamboyant, que les sondages sont moins bons que pour Mme Le Pen, encore qu'on est déjà à 8-10%. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que ma façon de procéder était peut-être plus solide. En tout cas, on a travaillé. Et on a un programme de réforme de l'Europe qui ne veut pas jeter l'Europe par terre, qui veut simplement qu'il n'y ait plus de travailleurs détachés en France, qui ne payent pas les charges sociales, qui veut que l'agriculture soit protégée, qui veut que les banques soient contrôlées. Qui veut...
Mais l'idéal, ensuite, voilà. Une fois...
Eh ben, les Français, ils ont peut-être le droit au sérieux aussi. Ils ont peut-être le droit...
Au Parlement de Strasbourg, vous pourriez retrouver des gens comme Marine Le Pen. Alors, pas elle, puisqu'elle n'est pas députée. Elle ne se présente pas comme députée européenne.
Mais personne connaît le programme. Attendez.
Non, mais le but après, c'est de travailler ensemble. Vous avez cité Jean-Luc Mélenchon, vous avez cité Marine Le Pen.
Le but après, c'est de travailler avec des partenaires. Il n'y a pas que les Français là-bas. C'est de travailler avec le maximum de pays... pour qu'à cette élection européenne, dans tous les pays d'Europe, les euro-réalistes, comme je les appelle, ceux qui ne veulent plus qu'on continue sur ce libre-échange déloyal, sur cet appauvrissement des peuples, sur cette immigration massive, puissent se retrouver pour changer concrètement l'Europe. Les Français ne sont pas anti-européens. Les Français veulent maîtriser l'Europe. Moi, je vais leur proposer, avec notre liste de Debout la France, des gens compétents, honnêtes, intègres, ce sera peut-être pas mal dans la vie politique française, et puis, avec un programme très sérieux. Et je dis aux Français quand même, arrêtez de vous fixer sur les sondages seulement, arrêtez de voir le miroir aux alouettes. Je crois que vous avez été eu une fois avec Macron là, sérieusement. Moi, je sens un grand changement chez mes compatriotes. Ce qui se passe avec la crise des gilets jaunes, c'est un intérêt incroyable sur Internet pour les programmes. On a eu énormément d'adhérents à Debout la France. Pourquoi nous ?
Avec une étude du Cevipof qui disait cette semaine qu'il y avait un
désaveu très fort.
Et des partis politiques.
Et là, je suis d'accord avec vous.
Et des représentants
totalement
politiques.
Totalement d'accord avec vous. Et
vous ne craignez pas aussi d'être la victime de ça ?
Non, parce que...
Et du coup, une liste des gilets jaunes pourrait vous faire une concurrence importante ?
Parce que... je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, je suis différent et ceux qui m'accompagnent. Vous savez, ils ont tout quitté pour me suivre. On n'a jamais offert ni place, ni argent, ni honneur, ni décoration. Nous sommes un parti de Français citoyens. Et s'il y a autant de monde qui nous rejoint aujourd'hui, c'est parce que peut-être on a été différents depuis beaucoup d'années. Souvenez-vous de ce que j'avais fait sur les autoroutes. Tiens, je propose la nationalisation de Vinci.
On en parlera. Cela dit, quand on regarde...
Parce qu'il y en a marre de la spoliation.
Dernière question sur les européennes, Nicolas Dupont-Aignan.
Oui, les européennes, c'est important. Parce que c'est la cause de la crise des Gilets jaunes.
Les Républicains, la mauvaise Europe, manifestement, pourraient mettre en tête de liste François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est un adversaire...
Mais les Républicains, c'est un peu comme... pardonnez-moi...
En tout cas, c'est
politique.
Une tête nouvelle, oui, comme dans toutes les listes
les
qu'on voit aujourd'hui.
Ah bah on a eu Macron, c'était une tête nouvelle. Bonjour
non,
les
dans
dégâts.
Dans les listes européennes,
mais vous
c'est
voulez
que
continuer,
des têtes
mais,
nouvelles.
Le problème des Républicains, c'est qu'ils ne sont pas cohérents. Ils ont signé tous les traités européens.
Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, dit exactement la même chose de vous dans le Figaro
oui,
hier.
Oui, bah,
vos différents engagements donnent le tournis.
Oui, il commence à prendre peur. Brice Hortefeux rappelle que dans mon début de carrière au cabinet de François Bayrou, ministre de l'Éducation, chargé du dossier des établissements sensibles, et il l'instrumentalise pour me déconsidérer. Ça prouve qu'il commence à me craindre parce que énormément de Républicains arrivent. S'il y a une personne qui a été cohérente dans ses choix, c'est bien moi. En revanche, juste un point très important sur les Républicains. Ils ont signé tous les traités qui ont favorisé l'émigration, la concurrence déloyale pour nos artisans, pour nos agriculteurs, pour nos ouvriers. Ils se plaignent toujours des effets de ces traités. À Bruxelles et à Strasbourg, leurs députés, notamment Brice Hortefeux, ont voté tous les textes qui aboutissent au chaos actuel. Et ils font campagne contre l'Europe tout en étant pour. Ils sont totalement incohérents et ils ne savent plus quoi faire pour survivre,
Nicolas,
comme les socialistes. Les gens ont besoin de clarté. Donc quand les Républicains sauront et nous diront clairement quelle Europe ils veulent, eh bien, j'en serais ravi. En attendant, beaucoup de Républicains nous rejoignent parce qu'ils savent que j'ai une vision gaulliste. Je veux l'Europe, mais je veux l'Europe des démocraties et des projets collectifs. C'est une Europe claire et ça s'oppose à l'Europe de Macron, qui est l'Europe fédéraliste.
On a compris, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et tête de liste pour les prochaines élections européennes, est l'invité du Grand Rendez-vous. Restez avec nous.
10h-11h, le Grand Rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews. Cécile Cornudet,
Damien Fleurot, Hélène Jouan.
Vous écoutez le Grand Rendez-vous de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France. Une question de Cécile Cornudet.
Après avoir soutenu les Gilets jaunes, est-ce que vous soutenez les revendications des stylos rouges, les enseignants qui demandent un dégel du point d'indice?
Je pense que les enseignants français sont les plus mal payés d'Europe et que dans une société, le savoir doit être bien rémunéré parce que c'est toute la hiérarchie du fonctionnement du pays. Et qu'on ne peut pas fonctionner quand l'enseignant, l'universitaire, le scientifique sont mal payés.
Donc oui, après, vous dites oui à toutes les revendications sociales.
Non, mais attendez, je ne dis pas oui à tout non plus. Je dis en revanche que la question de l'école de la République n'est pas simplement une question d'argent. C'est une question de valeur, d'autorité, de respect des élèves qui doivent respecter les enseignants.
Donc vous soutenez le plan de Jean-Michel Blanquer sur les violences
là-dessus, oui, tout à fait. Et je suis suffisamment critique vis-à-vis de ce gouvernement et de cette présidence pour dire que, heureusement, il y a ce ministre de l'Éducation.
Et l'idée de suspendre les allocations familiales pour les enfants violents?
Il faut le faire. Et je l'ai toujours proposé. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut réhabiliter l'école de la République, l'école des devoirs, l'école qui donne sa chance aussi. Nous avions à Debout la France, pendant la présidentielle, un grand programme pour aider les élèves en difficulté, pour les sortir de leur milieu, pour réhabiliter les internats de la réussite. Je crois qu'il faut un grand plan pour l'instruction civique de notre pays. C'est un de mes dadas, si je puis m'exprimer ainsi. C'est pas très scolaire.
C'est le président de la République qui parlait des droits et des devoirs. Hein.
Mais
les Français,
très bien,
vendredi
mais heureusement
dernier,
parfois, il parle des droits et des devoirs, mais qu'il se les applique à lui-même.
Juste sur le pouvoir d'achat, parce que vous avez l'air de soutenir les revendications de pouvoir d'achat, mais notamment des enseignants. Comment vous financez tout ça?
Le grand problème du pays aujourd'hui, c'est que les entreprises payent une fortune et que le travail rémunère non pas le salarié, mais l'État. Donc il faut oser dire qu'il faut des économies. Parce qu'on ne pourra pas financer la relance du pouvoir d'achat.
Ça, tout le monde le dit, mais on ne sait pas où les faire.
Eh bien, moi, je vais vous le dire où les faire. Et c'est ma grande différence avec les Républicains. J'ai lu l'interview de Laurent Wauquiez dans Les Échos, Cécile Cornudet. J'ai été effaré. Il veut encore faire trinquer les retraités, ceux de la fonction publique. Mais c'est quand même des retraités qui ne gagnent pas grand-chose. Il veut encore reprendre la vieille lubie qui a fait échouer Nicolas Sarkozy, et j'avais alerté à l'époque, de supprimer des postes d'infirmières dans les hôpitaux.
Bah
si, il dit qu'il va réduire, il ne remplacera pas les départs à la retraite. Or, comme les principaux effectifs, c'est l'hôpital.
Il va agir sur le temps de travail.
Non mais oui, ou l'hôpital et l'enseignement, ça veut dire à la fin qu'on revient dans la spirale infernale où la réduction de la dépense est au mauvais endroit. Nous, nous proposons à Debout la France, et nous sommes les seuls dans la classe politique, à réduire la dépense de 32 milliards d'euros, très précisément, et je publierai le 24, nous ferons une conférence de presse avec le détail, 32 milliards d'euros d'économies qu'on peut faire demain matin et que nous redistribuons sous la forme de la réindexation des pensions de retraite.
Mais où les économies, les 32 milliards
32
en
milliards.
Oui, mais
9 milliards sur l'Union européenne, immédiatement.
Donc c'est la dotation que verse la France.
La France verse 11 milliards nets. Nous en laissons D'accord. 2 milliards, comme auparavant. La France contribue à l'Union européenne. Il
et
faut...
la France reçoit aussi.
Non, mais non. Les 11 milliards, c'est net. On donne 22,2, on reçoit 11,2. Donc, 11 milliards nets, nous pensons que ça a explosé depuis 10 ans et qu'on n'était pas malheureux sous Chirac quand on donnait une somme pour aider nos voisins, mais pas une somme exorbitante. Nous récupérons 9 milliards là-dessus, nous récupérons 15 milliards sur les abus de l'assistanat, nous récupérons...
Les abus de l'assistanat, bon, on
la
a pas le temps
fraude fiscale
de...
à la TV, à la carte vitale, c'est scandaleux. Scandaleux ce qui se passe, il n'y a qu'à aller voir dans nos hôpitaux. Dernier point, nous récupérons sur l'immigration et nous récupérons sur le train de vie de l'État. Par ailleurs, nous taxons les GAFA, c'est-à-dire les entreprises qui ne payent zéro d'impôt.
Ah, c'est un des combats du ministre actuel de l'économie, Bruno Le Maire.
C'est un combat perdu, ça fait 18 mois qu'il en parle et que rien n'est fait. Ah bon ? C'est pas simple ? De, à un moment, Airbnb, j'ai découvert 500 000 logements sont en France, je suis désolé de citer cette marque, qui est d'ailleurs une innovation remarquable, 500 000 logements. Ils traitent 500 000 logements en France. Vous savez combien d'impôts ils payent ? 161 000 euros, c'est-à-dire 30 centimes par logement. 30 centimes par logement. Et au même moment, nos hôteliers, nos restaurateurs sont accablés d'impôts. Si on ne règle pas ce problème de la base fiscale, nous aurons la révolution.
Nicolas Dupont-Aignan, comment vous financez la nationalisation des autoroutes que vous préconisez depuis très longtemps ?
Parce que ça propose la nationalisation de Vinci, d'autorité. Pourquoi ?
Mais
parce
d'autorité,
que,
il faut.
Si,
il
mais
faut
nous paierons, et ça sera rentable en 4 ans. Parce que Vinci se goinfre par l'autorisation de l'État, et les autres, il n'y a pas que Vinci, se goinfre par l'autorisation de l'État, c'est quand même extraordinaire
c'est-à-dire ce qui s'est passé.
Je vous donne un exemple. Même le Financial Times l'a critiqué, journal libéral. Même la Cour des comptes, l'autorité de la concurrence. Tous les gouvernements, ont donné à des sociétés privées l'octroi, comme sous l'ancien régime, à des fermiers généraux, le droit de prélever une taxe sur la circulation sur notre territoire.
Ils entretiennent les routes ?
Ils entretiennent rien du tout, ils entretiennent, mais ils ont tellement de profits, c'est du vol, c'est de la spoliation
publique.
Donc
on nationalise, ça coûte combien ?
Ça coûte le prix qu'on l'a vendu, 14 milliards, moins tout ce qu'ils ont gagné. Depuis,
et ensuite, péage
on retire
gratuit.
Les bénéfices.
Et ensuite, péage gratuit.
Et on additionne les investissements qu'ils ont faits. Il ne s'agit pas de léser les choses. Et pendant 5 ans, les péages rembourseront ce qu'on a dépensé. Mais au bout de 5 ans, nous serons propriétaires de nos autoroutes et nous les rendrons aux Français sous des modalités à définir. Est-ce qu'on fait beaucoup moins cher ? Est-ce qu'on fait un peu moins cher pour financer d'autres choses ? Mais moi, je veux rendre les autoroutes de France aux Français. C'est mon objectif depuis 2006. Ils ont été volés aux Français. Je veux les rendre. Et ça participe du bien commun. Vous savez, moi, je suis convaincu que les Français attendent des hommes politiques qui défendent le bien commun. Il faut faire des efforts collectifs. On ne va pas raser gratis. Il y a des économies à faire. Mais il faut que ce soit juste. Moi, j'aimais bien le slogan « Je n'aime pas Madame Royale parce que je suis en désaccord avec elle ». Sur beaucoup de choses, elle est très hypocrite. D'ailleurs, c'est entre nous, elle,
sur
qui a augmenté les taxes.
Les
taxes aussi sur l'essence. Mais elle avait un beau slogan qui était l'ordre juste. Il faut de l'ordre en France et il faut de la justice.
Dernière question, Cécile Cornudet.
Sur Carlos Ghosn, qui on a appris cette semaine qu'il était exilé fiscal depuis 2012. Comment vous lisez cette information ? Est-ce que c'est l'immoralité d'un patron ou est-ce que c'est une fiscalité des hauts revenus trop forte en France qui pousse à partir ?
Je pense, j'ai toujours contesté la rémunération de M. Ghosn. Je pense à tous les petits chefs d'entreprise qui triment à travers le pays, qui font la richesse du pays. Toutes ces petites entreprises, où vous avez des patrons qui gagnent 2000 euros par mois, qui hypothèquent leur maison, qui font la force du pays, et qui en ont, mais qui sont indignés et qui sont souvent sur les, aussi avec les gilets jaunes, parce que c'est ça qui change. À Soissons, il y avait 800 personnes hier, dans les petites villes.
Mais c'est une fiscalité trop lourde en France.
Attends. Je pense à tous ces petits patrons qui ne supportent plus l'avidité, la rapacité. Le pape a écrit des choses très belles au moment du premier de l'an et de Noël sur l'avidité humaine. Ces grands patrons ne sont plus dignes de la France et même de leurs entreprises et de leurs salariés. Voilà.
Merci.
Vous savez, il y a des cadres et des ingénieurs très bien dans ces entreprises qui pourront les remplacer.
Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été l'invité du
Merci
Grand
de votre invitation.
Rendez-vous. Une émission en partenariat avec CNews et Les Échos. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.